Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Sophie Avon de Sud-Ouest, chère Sophie, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série tous les samedis à 20h dont nous sommes tous des accros. Sur notre chaîne, bien sûr, Nicolas Chalère de l'Obs et Michel Simon de Positif. On va essayer ce soir, je vous promets rien, de parler des films de Roland Emmerich, Edouard Baird, Mike Mills, Laurent Cantet, Thomas Kruithof, Thierry de Peretti et Johanna Hogg. Dans le courrier de la semaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson n'a pas séduit nos auditrices et auditeurs qui se rangent mais vraiment à l'unanimité derrière Jean-Marc Lalanne, seul critique, je le rappelle, du masque à avoir détesté ce film. Pour Jacques Palloumé, Danière sur scène, ce sont 2h13 minutes d'ennui garanti pour 10 euros. Pour Loïc Dombreval, c'est une histoire brouillonne entre deux jeunes gens moches avec des couleurs fadasses. Je suis parti au bout d'une heure. C'est mou, décousu, génial, nous dit Victoria Leclerc. Dominique de Bordeaux, Sophie, parle d'un scénario sans intérêt, voire invraisemblable, et un réalisateur qui se regarde filmer avec béatitude. Pierre Enrotte parle d'un film filandreux, peu crédible et très ennuyé. Reste avec nous, Michel. Guy Doucan, d'un film aussi poussif que les véhicules poussés vers les stations-service lors de la crise pétrolière. Pour Michel Belin, de Boulogne-Billancourt, un seul mot résume cette bluette prétentieuse. Mais oui, Nicolas, tape à l'œil et adulé par les vieux critiques nostalgiques, c'est adolescent. C'est un pudding acnéique avec une invraisemblable happy end. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, ça vole haut.
Il m'a semblé, n'insulte pas nos fidèles, il m'a semblé, ajoute Alain Matou de Paris, que j'assistais à des cucuteries adolescentes dépourvues d'intérêt. Licorice Pizza est un film pénible et de peu d'intérêt. Olivier de Vrant d'Auvers-sur-Oise remercie Jean-Marc Lalanne. Il a su dire exactement avec les mots et décrire mes propres sentiments sur ce film que je n'ai pas aimé, mais surtout dont je n'ai pas compris le but. Bon, allez, on va pas tout raconter, mais Alice Audouin et Jérôme Martin, à 100% d'accord avec Jean-Marc, jugent que ce film n'a aucune portée, aucun message. Selon Didier Veupierre, scénario inexistant, interprétation lamentable pour Adrien de Grenoble. Il y a un message qu'il n'aime pas. J'ai trouvé que l'éloge de l'esprit d'entreprise de la jeunesse dorée de la vallée, le fait que le héros n'aille pas plus loin qu'un baiser, avait un côté réac qui ne déplairait pas à Trump et aux adhérents du Tea Party. Heureusement, il y a quelques auditeurs, dont Philippe Poitier, qui est de Paris et pas de Poitiers, trouve que Licorice Pizza est un film good movie qui fait un bien fou et qui rend hommage au cinéma comme art cinétique et qui est baigné par une superbe bande musicale qui allie humour, émotion et finesse. Voilà, vous êtes tous absolument désespérés. Hein. J'ai reçu de nombreux messages pour souligner l'erreur, ou plutôt le lapsus de Michel Simon, qui avait parlé du Christ s'est arrêté à Eboli de Primo Levi, alors qu'il s'agissait de l'écrivain italien Carlo Levi, sans lien de parenté, évidemment, avec le survivant de la Shoah. Comme j'ai reçu beaucoup de messages, je rappelle que c'était un lapsus. Sur Paul Thomas Anderson, on n'ajoute rien, non ?
Non, il y a deux choses. Tout le monde a le droit de penser, bien sûr, que Paul Thomas Anderson n'a aucun talent, que c'est un mauvais film, etc. Il y a deux choses qui me gênent, c'est de dire que c'est un film prétentieux. Je trouve pas que la prétention soit ce qui caractérise le film. Et d'autre part, le fait que le film ne délivre pas de message, je trouve que c'est plutôt positif.
Alors, on va commencer très vite avec un film que seuls deux critiques ont vu, c'est Sophie Avon et c'est Nicolas Chalère, parce que Xavier Le Herpeur et Michel Simon n'ont pas été conviés, si j'ose dire, aux projections de presse.
On a été interdits.
Vous allez peut-être comprendre pourquoi nous n'avons pas été conviés aux projections.
Oui, alors il faut dire que cette émission
nos collègues
est enregistrée avant que le film soit en salle, donc sinon vous l'auriez rattrapé en salle, mais voilà, on vous a empêché de le voir avant. Donc
vu le metteur en scène, on comprend.
Moonfall C'est Roland Emmerich, c'est le réalisateur, vous savez, d'Independence Day, où la Lune menace de s'écraser sur la Terre et où une cadre de la NASA et ancienne astronaute va tenter d'empêcher cette catastrophe. Nicolas ?
Elle ne menace pas de s'écraser, elle est sortie de son orbite et du coup les océans engloutissent les terres et engloutissent toutes les villes. C'est Roland Emmerich qui oublie parfois le tirer au film catastrophe et qui fait des films vraiment catastrophes. C'est-à-dire que il a fait un film qui était plutôt potable et qui était assez visionnaire de ce qui nous arrive en ce moment, qui était Le Jour d'après, qui était quand même c'est son meilleur film. Et là, il s'est amusé à mixer ce film-là avec Independence Day, qui est son heure de gloire, son plus gros succès. Et c'est financé en grande partie par la Chine. Et ça se voit, les effets spéciaux sont
Par la Chine.
Oui, en grande partie, oui, tout à fait. Donc, on sent qu'il trouve l'argent où il peut aujourd'hui, ce qui est assez triste. Il trouve les techniciens des effets spéciaux qu'il peut, ce qui est assez triste à l'image. Et c'est assez catastrophique, surtout quand il se pique aux trois quarts du film de donner des petits clins d'œil à 2001, à Interstellar ou à Gravity, mais écrit par un émule de Luc Besson, voilà ce que ça peut donner. C'est très douloureux, on a l'impression que ça dure 3 heures alors que ça dure à peine 2 heures. Épargnez-vous ça.
Sophie.
Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter pour le défendre. Emmerich, il est pas connu pour être subtil, élégant, léger. Donc le film n'est pas subtil, élégant, léger. C'est énorme. Les effets spéciaux sont énormes, mais pas au sens positif du terme. Tout est gigantesque. Et les finamis sont gigantesques. Le budget est gigantesque.
Je pense le budget.
Il fait quand même plus de 150 millions de dollars. J'ai l'impression quand même que c'est un budget assez conséquent. Enfin, je trouve que ça ruisselle de gigantisme et à côté de ça, c'est vrai qu'il nous ressort un petit peu la même aventure double de réconciliation du père et du fils, l'un étant héroïque sur Terre, l'autre étant héroïque dans l'espace. Il avait déjà ça dans Le Jour d'après, qui par ailleurs était un film un peu mieux, effectivement, que j'avais plutôt trouvé bien. Pas de métaphysique, il n'y a pas d'humour et les dialogues sont assez pauvres. Donc
et puis
ça
à un moment, à une époque, c'était un peu drôle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait sauver le chien. Là, il n'y a même pas d'humour. C'est-à-dire qu'il sauvait le chien alors que des populations entières étaient dévastées.
On n'ira pas, de toutes les manières.
Voilà.
Donc ça ne sert à rien.
Non, si on aime les tsunamis et qu'on a envie de voir ça, oui, il y a du spectacle. Mais c'est du spectacle à 2 balles. Quoi.
J'ai presque envie, moi.
J'avais peur. Et puis, tu es déjà arrivé par les films que tu n'as pas vus. Donc en plus, là, je trouve ça étonnant.
Voir les films nuit gravement à l'objectivité dont nous avons besoin quand on en parle.
Oui, Michel ?
Oui, non.
Tu veux en parler ?
Ce que je voulais dire dans tout ça, une petite remarque, c'est qu'avant la guerre, les Américains...
La dernière guerre. Non, parce qu'avec toi,
mondiale, c'est jamais, hein. La dernière guerre mondiale. Avant la dernière guerre mondiale, Hollywood accueillait Fritz Lang et Murnau, des génies qui venaient travailler à Hollywood. Ouais. Aujourd'hui, ils accueillent Wolfgang Petersen et Roland Emmerich, deux Allemands, Tocard, qui font les films, c'est pas moi qui le dis, c'est Coppola, qui font les films qu'aucun grand metteur en scène américain accepterait de faire, tellement ils sont mauvais. Ils sont obligés d'avoir recours à des cinéastes allemands sans aucun talent pour faire effectivement ces blockbusters absolument creux.
Eh bien, c'était Moonfall, le film de Roland Emmerich. Allez, on va vite sur ce film-là. Entrons dans le vif du sujet avec Adieu Paris d'Edouard Baird, qui réunit dans un resto parisien, qui est la Closerie des Lilas, pour un rituel annuel, une bande d'anciens rois de Paris, pas mal ébréchés, qui s'aiment, qui se détestent et qui célèbrent pour le récompenser de sa paresse, un certain Yoshi. Il y a l'artiste François Damiens, l'écrivain Pierre Arditi, l'ex-crooner Bernard Lecoq, le metteur en scène de théâtre Bernard Murat, il y a Daniel Prévost, il y a Jackie Berroyer, il y a une nouvelle apparition à l'écran, une de plus, de Jean-François Stévenin, qui n'aura jamais autant tourné qu'à la fin de sa vie. Je ne vous dirai pas si Gérard Depardieu vient ou ne vient pas au déjeuner de cons, car il y en a un, hein, c'est Benoît Poulvord, alias le Belge, qui débarque avec un tonitruant contrôle des cancers. C'est aussi un adieu burlesque à la vie parisienne d'autrefois, film plus court que le Roland Emmerich, puisqu'il fait 1h36. Xavier ?
C'est un film malade, de toute façon, en disant les choses telles qu'elles sont, extrêmement amer, extrêmement aigri, dans ses premières minutes.
Tu le trouves aigri?
Ah ouais, je le trouve aigri. Je trouve que c'est compliqué de trouver sa place autour de cette table où tout le monde se jalouse, se déteste, se séduit, tout en ne s'appréciant absolument pas.
C'est comme au masque, pourtant.
Surtout quand il y a Nicolas Chalère, mais bon, voilà, c'est le cas ce soir. Et nous sommes amenés dans ce restaurant, la Closerie des Lilas, par un personnage, Benoît Poulvord, qui fait son entrée dans ce milieu-là, et dès qu'il arrive, il comprend qu'il n'est pas le bienvenu, que personne ne veut de lui, que c'est une erreur. Pierre Arditi menace de quitter la salle puisqu'il est là et que visiblement il a commis quelques jours avant, Poulvord, un acte absolument impardonnable. Bon, on se demande
pourquoi tu regardes.
Ben, je sais pas, voilà, spontanément, tu vois, mon regard vers toi. Ouais, je trouve quand même le film très aigri, c'est-à-dire très méchant, très caricatural sur la vie culturelle parisienne. Il y a Bernard Murat, le metteur en scène de toutes les stars, sur toutes les scènes de l'Édouard VII. Enfin, voilà, je trouve que je vois pas très bien ce qu'il veut nous raconter jusqu'à un moment. Et c'est là où, bizarrement, le film commence à m'intéresser. On comprend donc que Poulvord n'était pas le bienvenu, et on comprend qu'on attend le vrai invité, et c'est Edouard Baird lui-même. Et je trouve qu'il y a là, dans le rôle de l'imposteur, puisqu'en gros, effectivement, il remplace Poulvord, et qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il n'est pas aimé. On a entendu toutes les méchancetés dont ces gens-là étaient capables vis-à-vis de leur invité de l'année. Tu as cité le pauvre, mais il y a aussi l'autre, celui qu'il devrait adouber, mais qu'en même temps, il n'aime pas. Et là, je trouve que Edouard Baird met quelque chose sur la table, sur son propre ressenti. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se considère lui-même comme un imposteur dans ce milieu-là, qu'il n'en fait pas partie, qu'il voudrait en faire partie. Et en même temps, il se déteste de vouloir en faire partie. Voilà, je trouve que la deuxième partie, qui abat un tout petit peu plus ses cartes, est beaucoup plus... a toujours cruel, mais il y a quelque chose... Il se meurt en tout cas au milieu de cette arène-là, et je trouve que ça fait un film, du coup, beaucoup plus poignant, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus juste, en revanche. Alors, la mise en place, pour moi, je la trouve un peu interminable et un peu faisandée, un peu artificielle, mais dès qu'effectivement, il semble prendre place en disant, bah ouais, moi j'ai l'impression de pas être parmi vous et de pas faire partie de votre milieu, eh ben, il y a quelque chose que j'aime bien, puis c'est un copain de Mylène Farmer, alors je peux pas dire plus
mais, que mais ça. C'est vrai en plus ou pas?
Bien sûr, ils ont fait le cours Florent, ensemble.
Moi bah ça, je savais pas, moi, je sais pas.
Bah, ouais, mais tu sais rien sur Mylène Farmer, alors Michel. Ne reprends pas sur le sujet. Hein.
Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film qui est d'abord à l'époque de Me Too, qui est presque suicidaire de montrer. Alors, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est un éloge ou une critique de ces vieux beaux, de ces ratés, etc. Non,
c'est assez évident quand même, Michel.
Que c'est bah non, mais il n'a pas tort. Hein. C'est un mélange des deux.
C'est un mélange des deux, d'une part. Et puis d'autre part, je trouve qu'il y a un côté post-Covid. C'est-à-dire que finalement, le plaisir de se retrouver, de bouffer ensemble, de parler, etc. Après tant d'années maintenant de confinement, etc. Donc il y a un côté très curieux. Et puis il y a aussi... Alors je me rappelle avoir défendu un peu tout seul, il y a pas mal d'années, Les Grands-Ducs de Patrice Lecomte, qui était un film sur des vieux beaux de...
Avec Noiret, Marielle et
voilà. Rochefort. Et je trouve qu'ici, c'est évidemment le plaisir de voir tous ces formidables comédiens, un peu comme quand on voit les films des années 30 et qu'on découvre Carrette, qu'on découvre Gaston Modot, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce film, qui est en roue libre, qui est d'une grande liberté de ton et qui reflète tout à fait l'esprit d'Edouard Baird.
Sophie.
Oui, c'est un drôle de film. On a un peu l'impression d'être un anthropologue au-dessus du bocal et voir des vieux acteurs qui cabotinent, qui sont rongés par leur narcissisme, qui jouent un peu leur rôle et en même temps, c'est pas tout à fait eux, ils ont pas les mêmes prénoms, donc c'est pas eux, mais enfin, c'est quand même, ça les ressemble. Et en même temps, ils viennent là donner le change, pour profiter de leur dernier feu, avec beaucoup de cruauté, c'est vrai, mais dès que c'est fini, ils sont très démunis, donc c'est aussi un film sur la solitude, évidemment. C'est un film, je suis d'accord avec Xavier aussi, c'est un film très triste. Alors je dirais moins aigri que...
Oui, moi, j'ai pas senti l'aigreur.
À la fois féroce et mortifère, presque.
Très mélancolique.
Je vois moins la mélancolie que vraiment un côté à la fois féroce et presque morbide, quoi, enfin, parce qu'ils sont quand même là pour profiter des derniers instants, hein, quand il y a quand même de ça. Et puis quand ils sont nus à la fin, enfin, d'une certaine manière, ils sont démunis et... Alors je trouve que c'est un film quand même qui reste attachant et émouvant à cause de ça, et je trouve quand même qu'Arditi, parmi tout cela, qui ces derniers temps se caricaturait beaucoup, là, il va tellement loin dans la caricature, il est tellement au-delà de la caricature, il n'est pas dupe de l'être, il va tellement, tellement loin au-delà du ridicule, du grotesque et tout, qu'il en est quasiment sublime, quoi. Il y a un truc qui est quand même très fort à ce moment-là.
Alors, Nicole,
selon Edouard Baird, il s'inspire beaucoup de Pierre Bénichoux pour le personnage d'Arditi, journaliste avec son analyste à l'Obs. Non, mais c'est vraiment
des grandes figures à une époque, des grosses têtes.
Exactement. Et alors, c'est toujours ce qu'il y a. Moi, j'ai toujours bien aimé ce que faisait Edouard Baird. C'est toujours foutraque, c'est toujours invertébré. C'est, on a l'impression que c'est parfois improvisé sur un coin de table. Et mais il y a toujours quelque chose à la fois sur l'esprit de bande et en même temps sur ce que ça peut avoir d'opportunisme, de petitesse, de trahison, de solitude dans cet esprit de bande. Et en même temps, il y croit toujours à cet esprit de bande. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce film-là. C'est que, et c'est la première fois qu'il l'aborde à cet âge-là de la vie et à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a écrit pendant le confinement et qu'il l'a tourné vraiment dès que le confinement s'est terminé. Et il y a vraiment ça. Il y a comme on essaie de repartir sur un nouveau monde, mais en enterrant le précédent. C'est-à-dire que le film est parfois mal aimable et parfois on se dit là, on en a marre, on a envie de partir. Cette recherche de la bonne phrase qui est un peu laborieuse de chacun, ce côté vraiment pathétique, quoi. Et en même temps, il y a toujours quelque chose pour nous rattraper d'assez touchant, que ce soit le personnage de Berroyer qui est à la limite d'Alzheimer et qui est vraiment très émouvant, et sans que ce soit non plus des facilités. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose sur le parisianisme face à la belgitude, mine de rien, et je trouve ça assez terrible. C'est ce qu'incarne Damien, c'est Poulvord. C'est-à-dire que Damien, on sent qu'il s'est un peu renié pour s'intégrer à ce groupe, et Poulvord qui lui est trop lui-même, qui est trop dans ce côté trop généreux et too much, et qui se fait vraiment, enfin il y a vraiment une cruauté, je trouve, dans la manière de traiter le personnage, qui est assez terrible. Donc c'est vraiment un film
nous
pas inintéressant du tout.
Nous avons encore 5 films à évoquer. Adieu Paris, c'est le film d'Edouard Baird. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public tout en haut du théâtre? Monsieur, bonsoir.
Bonsoir, je me présente, Mr. Nam. Ce film est un titre prodigieux, Adieu Paris, on ne peut pas y résister. Et la brochette d'Amiens, Poulvord et Baird est parfaite, il en relève le plat.
Merci pour votre intervention. D'autres réactions? Non. Nous passons à Nos âmes d'enfants de l'Américain, Mike Mills, l'histoire longuette, hein. 1h50, j'ai l'impression qu'elle durait beaucoup plus, d'un journaliste de radio interprété par Joaquin Phoenix, cadre sans enfants, qui court le pays pour interviewer des jeunes sur leur vision du futur. Il a une sœur, pourtant il n'est pas très proche d'elle, qui traverse une passe difficile, et qui lui demande, alors qu'il ne connaît absolument rien à l'éducation, de s'occuper de son fils de 9 ans, Jesse, qui est joué par le petit Woody Norman. Et voici notre ancien Joker, transformé sur les routes en papa gâteau et en professeur de vie. Un film tourné en noir et blanc qui ajoute, je trouve, un peu au passéisme qu'on éprouve en le voyant. Sophie?
Ce noir et blanc, pour moi, est plutôt une façon de redonner une sorte de mythologie, comme ça, une Amérique qu'on redécouvre, notamment la Californie, en noir et blanc, on n'a pas l'habitude. C'est très beau, plastiquement. Il y a quelque chose de très beau aussi dans la mise en scène, dans la façon d'inscrire à l'écran des titres comme ça. Le problème est la relation entre Joaquin Phoenix, qui interview des enfants, mais qui n'a aucune idée de comment fonctionnent les enfants, et qui essaie de devenir un père de substitution pour ce gamin qui est très intelligent, très manipulateur, mais très fragile, se construit avec des hauts et des bas, et plutôt pas mal de bas. Et il y a un moment où, dans le film, à force de s'excuser d'être un adulte, ça devient insupportable, cette relation. C'est très curieux, comme à un moment donné, ce film que moi j'ai trouvé au départ plutôt beau, plutôt intéressant, plutôt émouvant, etc., m'a insupporté. Et puis il retourne.
Mais moi, ça a commencé plus tôt que toi.
Peut-être plus tôt, mais il s'excuse quand même beaucoup très tôt. Il s'excuse très tôt d'être un adulte. Et il y a quand même des choses émouvantes dans le film, notamment la fin, parce que la fragilité de l'enfant, malgré tout, est la plus forte. Et bien sûr qu'il est manipulateur et qu'on a envie de le baffer par moments, mais en même temps, il a des raisons d'être comme il est. Et du coup, il me semble que la fin rachète un petit peu le
Xavier.
Double peine pour moi, puisque quand je l'ai vu en projection de presse, on avait 3/4 d'heure de retard, donc je n'ai pas pu voir à la fin du film. Comme tu l'as très gentiment inscrit au masque, je l'ai donc revu dans son intégralité. Et de ma détestation première, j'en suis venu à une furieuse envie d'enterrer ce film. Enfin, je trouve ça mais caricatural à l'extrême d'un cinéma. Alors, ce qui est bien, c'est que tu arrêterais d'interrompre la personne au moment où elle vient de donner un argument avant de le développer. J'aurais l'air moins bête et toi aussi, donc ce serait quand même un double avantage. Caricatural donc d'un certain cinéma d'auteur tel que les Américains imaginent que le cinéma européen, la nouvelle vague en particulier, d'où le noir et blanc.
Tu penses que c'est pour ça le noir et blanc?
Ah ouais, mais bien sûr, c'est un film hyperposeur avec incrustation de texte sur l'écran le long des vides, des réflexions comme ça du personnage qui à un moment déclare dans une voix off, parce que non seulement on a le dialogue, mais aussi on a la voix off, il nous dit « je trafique de l'espoir ». Alors déjà quand on écrit ça, moi j'ai envie de dire « ben non, mais... » Tu vas tout de suite te calmer, hein. Tu vas remonter dans ta chambre et de baf. Surtout que c'est le personnage. C'est pour moi d'une caricature absolue dans son propos. Interroger les jeunes en disant, alors, le futur, tu le vois comment? Et alors, ils sont tous formidables. Ces gamins, ils vivent dans un pays quand même qui a eu Trump et qui risque de l'avoir une deuxième fois. Ils sont parfois des enfants d'immigrés. Non, ils disent que ça va être formidable, que bien sûr, c'est difficile, mais qu'on s'en sortira. Enfin, je trouve que c'est un film qui ne raconte rien, qui fuit les véritables sujets. Alors, Joaquin Phoenix, lui, alors, il endosse le personnage comme ça et il sent qu'il a un rôle fort, donc il en fait des caisses, mais des caisses comme ça les acteurs américains savent faire. C'est-à-dire qu'il joue avec le moindre sourcil, le moindre effet de paupière. Enfin, t'as envie de lui dire, mais calme-toi, Joaquin, tu n'es pas dans le Joker. Et tout ça ne raconte rien. C'est-à-dire qu'on change de ville, on passe de Détroit à New York, New York à la Nouvelle-Orléans, et on recommence à zéro avec ce gamin insupportable. Et le scénario est toujours en train de manipuler les personnages. C'est-à-dire qu'à un moment, le gamin veut y aller, veut pas y aller, passe son temps à ça. Il prend un taxi pour aller à l'aéroport de New York pour renvoyer le gamin à sa mère. Et évidemment, le gamin fait « Ah, j'ai envie de faire caca !» On sait très bien qu'il est en train de manipuler Joaquin Phoenix, et on tape quand même une séquence d'un quart d'heure en faux cinéma réaliste. Enfin, c'est consternant.
Il me semble que tu n'as pas aimé, et Nicolas.
Ben, c'est bien, parce que c'est pas du tout caricatural. Là, tu prenais un exemple d'une citation.
Ah, mais tu prenais
une citation que tu as sortie d'un contexte, c'est tout un texte, je crois, qu'il lit, qui est un texte tiré d'auteur, parce que justement, il y a plein de, comme ça, de moments où il prend des textes d'auteurs ou des extraits de contes pour enfants, et qui
ah oui, interviennent. Il raconte le magicien d'Oz.
Non, il y a un texte beaucoup moins connu. Il y a un côté bloc-notes dans ce film, bloc-notes intime.
Tu as aimé Nicolas ou pas?
Ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que je trouve que c'est très, très juste sur le rapport à l'enfance.
Toi,
sur le rapport, non, mais c'est très très juste sur le rapport sur cet enfant qui pour moi est aussi manipulateur que n'importe quel enfant. Il y a vraiment ce rapport là que je trouve vraiment hyper bien troussé sur à la fois à quel point un enfant peut être manipulateur, peut être capricieux, a des lubies. À un moment il se lève la nuit, il veut se faire passer pour un orphelin auprès de sa mère et qui doit jouer le jeu pour pouvoir l'endormir. À un moment Phoenix découvre qu'en fait il sait que sa mère a avorté et il se dit mais qu'est-ce qu'on répond à ça. Il y a vraiment, je trouve, plein comme ça de notations très justes. Et c'est ce que Mike Mills a toujours fait. Il fait toujours des films très sensibles, très délicats, toujours un peu à la limite du chichiteux. Mais là, moi je pense que le noir et blanc c'est un choix de production, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déplacements, il voyage beaucoup. Je pense que c'est pour donner une espèce d'unité à l'image, et je pense pas que si t'as pas l'œil que ça et que ça fasse très cinéma réaliste, justement c'est assez tenu. Et je trouve que Joaquin Phoenix, contrairement à toi, justement pour une fois il n'est pas dans la performance, il est dans un rapport assez simple et très direct à son rôle. On sent sa sensibilité mais sans que ce soit jamais outré, et il est pas du tout justement comme dans le Joker où il en fait des tonnes. Je trouve que le rapport avec le gamin est formidable,
pour bien montrer qu'il est mélancolique. Après, le seul
bémol que je mettrais, c'est effectivement sur les témoignages des enfants qu'il récolte petit à petit, qui sont tous très angéliques et qui on sent qu'il veut montrer que il faut croire en une jeunesse et pour le futur c'est un peu banal et un peu naïf, et j'aurais aimé qu'il y ait une mosaïque de portraits de témoignages un peu plus variés et un peu plus contrastés. Et là c'est vrai que du coup le film tombe un peu dans l'angélisme à cause de ça, mais je trouve sinon que tout ce qui est à côté, je trouve ça vraiment très sensible et délicat, et je conseille de voir ce film.
Que pense-t-on à positif de nos âmes d'enfants?
Écoutez, moi, pour moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire, je trouve que ce film, d'abord, a été refait sans arrêt depuis Chaplin avec The Kid, depuis Harry Langdon, jusqu'à Cry Macho. Enfin bon, le rapport, l'adulte, l'enfant, etc. Donc ça n'a absolument rien d'original. Je pense que le titre est nunuche comme c'est pas possible, nos âmes d'enfants. Ça dit déjà beaucoup de choses. Je pense qu'il est extrêmement répétitif. C'est les rapports entre, d'une part, un frère et une sœur, et d'autre part, un oncle et son neveu. C'est très répétitif. Et d'autre part, cette grande traversée de l'Amérique, on ne distingue absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne voit absolument pas de coupure, on ne voit pas justement toute la diversité du territoire. Alors pourquoi se balader pendant deux heures dans le territoire américain? Donc, je trouve que, moi, ce qui m'intéresse, c'est Phoenix, qui est tout de même un grand acteur. Alors, on a l'impression qu'il a fait le film après Joker, où il est à l'extrême opposé, où il était dans l'expressionnisme. Et il était formidable chez James Gray. Il fait partie de ces acteurs américains qui ressemblent aux acteurs anglais, c'est-à-dire le transformisme en permanence, c'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas d'un rôle à l'autre. C'est un peu ça qui m'intéresse. Et puis certaines scènes, je dis pas que c'est un film sans aucun talent, mais en tout cas, c'est extrêmement laborieux. Et d'ailleurs, le titre américain « Come on, come on », c'est-à-dire « Venez, venez », est traduit, encore une fois, de façon stupide par « Nos âmes d'enfants », qui fait pleurer de rire.
« Nos âmes d'enfants » de Mike Mills avec Joaquin Phoenix. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Avant de passer à des films français et très politiques, un mot, si j'ose dire, de ce film que Michel Simon m'a supplié d'inscrire au programme, qui fait d'ailleurs la une de Positif, c'est The Souvenir de Johanna Hogg, film en deux parties qui sortent simultanément avec Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke. Dans la première partie, Julie, une jeune étudiante en cinéma, tombe sous le charme d'un dandy qui s'appelle, qui se prénomme Anthony, et ce sera sa première histoire d'amour. Et dans la seconde partie, Julie cherche à faire la lumière sur l'existence fictive qu'Anthony s'était inventée et de consacrer son film de fin d'études à cette histoire d'amour, ce qui nous fait presque 4 heures de cinéma si on ajoute les deux parties. Michel.
Oui, alors quand j'ai vu ce film, je ne savais pas quel serait l'accueil de la presse. Moi, j'ai eu ce sentiment en voyant ce film que c'était vraiment la plus grande révélation de l'année qui vient de se passer. Et le film était à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et c'est un film pour moi qui... d'une réalisatrice que nous ne connaissons pas du tout en France. Elle en est à son 4e et 5e long métrage, puisque les deux films ont été tournés à 2 ans de distance.
Johanna Hogg.
Et je ne savais pas que la presse, quasiment, je ne dis pas toute la presse, mais quasiment unanime, consacre ce film comme un événement. C'est un véritable événement. Un événement pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que c'est... La première partie est très classique, mais un classicisme sublimé, c'est-à-dire un sens du cadre, un sens de l'image, une pureté dans la façon de filmer qui est assez étonnante. Et deuxièmement, c'est également un film, à mon avis, passionnant dans la deuxième partie qui répond à la première, puisque la deuxième partie, elle va faire un film de fin d'études qui est consacré à ses souvenirs, justement, ses souvenirs de sa jeunesse avec cet homme qui était cocaïnomane, qui est mort d'une overdose et qui a été son compagnon. Et donc, elle va tourner un film...
Là, tu racontes tout, hein.
Non.
Bah, si.
Oui, mais enfin, il reste encore 2 heures de film ensuite. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est
les meilleurs. On en est à la moitié.
C'est son film d'étude et sur son amour, son premier amour. Pas sur, oui. C'est pas encore des souvenirs au moment où il a été fait.
Donc je trouve ce film à la fois d'une stylistiquement magnifique et du point de vue conceptuel d'une très grande originalité. Je dis que pour moi, cette année, enfin l'année qui vient de passer, j'ai vu des films magnifiques, mais de gens consacrés, y compris Amaguchi, y compris, par exemple, Onoda. Il avait fait un premier film très bon. Tandis que ça, c'est une révélation pour moi majeure. C'est pour ça qu'on en a fait une couverture, parce que je pense qu'elle le mérite.
Nicolas ?
Oui, alors moi, je comprends très bien. Effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait effectivement 3-4 films avant et qu'elle a près de 60 ans et qu'on a l'impression qu'elle se révèle avec ce film-là, qui est vraiment un film sur sa naissance de cinéaste. Donc c'est ce paradoxe-là qui est intéressant, et c'est vrai que The Souvenir, du coup, prend une autre dimension, de se dire qu'elle fait presque un film d'étudiante à l'âge qu'elle a, à 60 ans. Et c'est en cela, peut-être, que je trouve le film assez touchant. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec la première partie, qui est vraiment ancrée dans une... forme de j'ai pas envie de dire réalisme, parce que le film est suffisamment singulier et un peu décalé, et parfois
il est stylisé
mais en même temps dans un ancrage très quotidien qui parfois moi m'échappe, où je ne vois pas où elle veut en venir et ce que ça me raconte, et je comprends ce que ça me raconte grâce à la deuxième partie, et où là elle convoque des références à tout le cinéma anglais, enfin tout le cinéma, beaucoup de cinéma anglais. À la fin, son film devient un hommage assez kaléidoscopique comme ça à entre Michael Powell, on pense à là ça me revient plus tout suite, mais on pense à comme ça 2-3 maillons du cinéma anglais. Et là, je trouve ce qu'elle raconte d'un tournage, du labeur, de comment on se découvre artiste, comment on se confronte à une équipe et on ne sait pas ce qu'on veut dire, et tout la réalité du tournage, tout ça, je trouve ça assez vraiment intéressant. Après, j'ai très envie de voir ce qu'elle va faire après, mais je trouve quand même que le côté très imposant de la proposition par rapport à ce qu'elle a raconté me paraît un peu disproportionné, et vraiment, j'ai quand même un peu souffert pour
d'autant que c'est
partie.
Je suis pas convaincu qu'on puisse voir la seconde partie sans avoir vu la
tout
première.
À fait. Ouais,
c'est
non,
un peu étrange. C'est un peu étrange de faire une sortie en Sophie en deux parties.
Moi j'aime énormément le film. Je trouve que c'est un film à la fois vertigineux et fait de détails, et fait d'ellipses, et fait de trous. Enfin, c'est un film incroyable, notamment la première partie où elle bouscule un peu la chronologie, et en même temps ça reste très clair, parce qu'en effet, comme l'a dit Michel, c'est avant tout l'histoire d'un amour, d'un premier amour qui fait d'elle une héroïne malheureuse et une réalisatrice inspirée dans la deuxième partie. C'est très beau, il y a des tas de petites choses, très rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais par exemple, au début, ils ne couchent pas ensemble, ils sont sur le même lit, il lui dit, on va mettre un mur entre nous, parce que je ne veux pas que tu viennes de mon côté, hein. Il rigole avec ça, mais n'empêche qu'il dit, on va faire un mur, et puis ils finissent par faire l'amour, donc il lui dit, on a démantelé le mur. Et des années après, en 89, quand elle voit la chute du mur, elle pleure. Voilà, il y a sans arrêt des connexions comme ça qui sont souterraines, qui, moi, me bouleversent, que je trouve absolument magnifiques. Et en effet, c'est vertigineux et fait de détails, avec le tableau de Fragonard qui est au centre de tout ça, qui s'appelle le souvenir, et qui éclaire tout. C'est très, très, très beau.
Xavier ? Moi, j'aime beaucoup aussi. Je suis comme Michel et Sophie. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est absolument à voir en deux parties, en diptyque, parce qu'elles se répondent de manière absolument magistrale. Moi, j'aime beaucoup l'hyperréalisme de la première partie. On n'est pas dans le réalisme. On est vraiment dans l'hyperréalisme. Elle se concentre sur des détails, ce qui lui permet vraiment de relier effectivement des points chronologiques distants et différents. Et je trouve d'une force absolue. Il y a Tilda Swinton qui s'est fait quand même la gueule de la reine d'Elisabeth d'Angleterre, qui est absolument géniale dans le rôle de la mère de l'héroïne et qui apporte toujours...
Qui est sa propre fille,
j'allais dire. Et ça apporte une forme d'humour. Et puis dans la deuxième partie, quand on croit qu'elle va faire un film sur cette période-là, mais elle l'a déjà fait dans Souvenir 1, elle change complètement de taquet en termes formels et elle ne parle que d'une chose. Est-ce que l'art peut être une façon de cautériser les plaies, les douleurs, les choses incoercibles, et je trouve que c'est absolument, la réponse en tout cas qu'elle apporte sur le plan formel et sur le plan du scénario est absolument magnifique.
C'est The Souvenir de Johanna Hogg en deux parties, des réactions ou une réaction. Bonsoir monsieur.
Bonsoir. Moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première grâce à Positif, donc je n'ai vu que la première partie. Je suis sorti de ce film, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était tout à fait vaine, d'accord ? Je suis d'accord avec Monsieur Simon. Effectivement, on voit très rapidement que c'est un camé, puisqu'il a deux trous dans le bras et fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Et puis, les jours sont passés, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu comme objet filmique ? Et effectivement, je conseille ce film, parce que c'est un objet...
Est-ce que vous irez voir la seconde partie ?
Bien sûr. En plus, vous avez l'air de m'exciter avec... Mais effectivement, je répète... que j'ai trouvé ça, l'histoire d'amour, tout à fait vaine, aucun intérêt, mais alors sur le plan de l'image, etc., les flashbacks, etc., c'est très, 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 très beau. C'est très, merci, très, très beau film.
Merci sur l'amour toxique, c'est quand même assez fort.
Votre intervention. Arthur Rimbaud de Laurent, quand est le réalisateur d'Entre les Murs, je vous rappelle, Palme d'Or à Cannes 2008, s'empare d'une affaire qui a fait scandale, et dont on se souvient en 2017. Mehdi Mekla, qui avait grandi à Saint-Ouen, qui avait fait les beaux jours du Bondy Blog avec son copain et qui était devenu chroniqueur sur France Inter dans l'émission de Pascal Clark et qui avait publié, toujours avec son copain, un roman et on ne jurait que par eux à l'époque jusqu'au jour où furent diffusés les tweets antisémites, racistes, sexistes, homophobes, j'en oublie, que Mekla avait publié entre 2011 et 2015 sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps. Et ce fut le début de sa chute. Alors, dans le film de Cantet, Mekla se prénomme, Mekla s'appelle Karim. Son pseudo est Arthur Rimbaud. Rimbaud comme Stallone, hein, pas comme le poète. Il est joué par l'excellent Rabah Naït Oufella. Je sais pas si vous en souvenez, qui était tout jeune garçon d'Entre les Murs. Il avait 14 ans.
C'est donc grave.
À l'époque, oui. Et on le voit donc réussir, mondaniser, avant de tomber avec la révélation des tweets, qui sont d'ailleurs incrustés à l'écran par Cantet, avant d'être condamné évidemment par son éditrice, par ses amis issus de l'immigration, par ce tribunal populaire et médiatique film, alors qu'il n'est ni à charge, ni à sens unique, qui est plutôt le portrait d'un transfuge de classe qui, même et surtout s'il a pensé des horreurs, à qui on ne pardonne rien, avec une scène à la fin que j'ai trouvée très belle, peut-être la plus intéressante, la plus, comment dire, claire du film, avec Anne Alvaro, que je trouve être... peut-être paradoxalement le grand moment de ce film. Arthur Rimbaud, Xavier.
Moi j'aime beaucoup ça, je trouve que Laurent Cantet a une façon de reconstituer la réalité d'une histoire que l'on connaît en en faisant vraiment quelque chose de romanesque. C'est l'histoire d'une chute, c'est l'histoire, ça commence le soir où les tweets sont découverts alors qu'il est célébré dans sa maison d'édition.
Oui, dans une soirée très mondaine, chic, très parisienne,
voilà,
très
mondaine. Vedette, tout le monde effectivement est très content de lui, la maison d'édition, l'attaché de presse, la directrice, et puis les tweets arrivent et juste après, il y a une scène où il est dans le métro. Et il est convaincu que tout le monde l'a reconnu, que tout le monde l'a identifié comme étant l'auteur de ces tweets infâmes, et il sent déjà la chute arriver alors que sans doute personne ne le reconnaît. Et là, il y a une mise en scène chez Cantet qui saisit très peu de choses. C'est des gens sur leur téléphone dans le métro le samedi soir, c'est d'une banalité sans nom, mais le découpage apporte déjà le côté très oppressé du personnage, très anxiogène de la situation, et on va descendre vraiment l'échelle sociale qu'il a grimpée jusqu'en arriver à cette scène bouleversante avec sa mère. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là, la mère qui est l'héroïne du livre qui lui a valu tant de succès.
et qui discute avec lui, et lui dit, mais à un moment, arrête de me prendre pour une imbécile, je suis l'héroïne de ton livre, et maintenant tu me parles comme une idiote. Et subitement, il y a quelque chose, tu as tout à fait raison, de transfuge de classe, que je trouve que Laurent Conté décortique de façon
magistrale. Il y a un jeune frère qui reproche. Qui lui reproche de renier ses tweets.
Lui, par de la provocation artistique du fait de pouvoir justement donner un coup de pied dans la fourmilière pour voir ce qui va en retomber justement d'une société qui pourrait être homophobe, anti-arabe, islamophobe. Et en même temps, effectivement, Conté ne juge pas. C'est un film qui est dans le factuel, avec un choix très bien pensé, j'allais dire, des moments qu'il marque dans ce parcours-là. Et je trouve ça absolument mais formidable, avec un acteur, mais génial.
Nicolas.
Oui, alors moi c'est marrant parce que c'est un film qui m'a laissé assez perplexe à la sortie et qui mûrit et qui je trouve nourrit passionnément de manière passionnante le débat. C'est-à-dire que c'est le meilleur exemple d'un film dossier de l'écran. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire que je trouve dans la tentative de, il y a eu vraiment une tentative de Kanté de mélanger à la fois une radiographie de l'époque et une forme d'errance existentielle de ressenti comme ça. Et entre le discours et le ressenti, je trouve que l'équilibre est très dur. Il faut dire que vraiment ce qu'il essaie de faire est très très compliqué, oui. Et d'explorer comme ça une zone grise sans jamais donner de solution.
Ni condamner, ni de faire de morale.
C'est toujours ce qu'il a exploré dans ses films, c'est de zone grise de la société, de rencontre de choses qui ne marchent plus, et effectivement du transfuge de classe. Et parfois, je trouve qu'il y a certains dialogues un peu trop didactiques, parfois le discours prend un peu trop la place, et d'autres moments, comme tu disais Jérôme, la scène avec Alvaro, qui joue une Annie Arnaud fictive, parce que je crois qu'il a eu un rapport avec Annie Arnaud comme ça, un peu de mentor.
Et la psy,
il ne se dit rien. Oui. Il vient chez elle, elle ne dit rien, elle dit juste une phrase à la fin, c'est la vie, c'est la loi. Et ça suffit, ça laisse un mystère qui, moi, je trouve que parfois le film, ce mystère-là, le casse un peu par trop de didactisme, et en même temps, voilà, en sortant, je trouve que c'est vraiment un film qui nourrit le débat, qui est assez passionnant.
Mais la mise en scène casse.
Sophie.
Oui, moi, je suis d'accord avec Xavier, je trouve que le film n'est pas du film didactique, je le trouve très très fort et très dense, 1h30, et en 1h30, il ramasse tout, quoi. Il arrive à, effectivement, ce qui est très beau dans le film, c'est la façon dont il accompagne ce jeune homme dans sa prise de conscience qui épouse le parcours géographique, hein, il repart dans l'autre sens, hein, comme il repart au bercail de Paris jusqu'à la banlieue, et on a le sentiment que ce type qui a nié, qui a pas voulu, qui dit au début, mais non, mais je suis d'une génération où on décode très bien ça, c'est de la provoque, etc. Petit à petit, de pas en pas, comme ça, il prend conscience de la gravité de ses actes et des mots qui ont un sens. Et c'est pas tant la question de savoir comment, le film, je trouve, n'est pas la question de savoir comment deux personnalités si différentes cohabitent dans un même corps, mais comment ce type-là se cache à lui-même. Comment ce type-là, et c'est là qu'il rejoint Jean-Claude Roman, n'assume pas.
Mais il met du temps à comprendre, parce que quand il retourne dans le studio du Bondy Globe à Saint-Ouen, il comprend pas.
Parce que ses copains lui disent, tu te rends pas compte.
Tout cassé, tout.
Voilà, tu as tout. Nous, on s'échine à essayer de paraître autrement. Et toi, tu
as tout bousillé.
Et là, putain, et c'est comme tu l'as dit, devant son frère, que là, tout à coup, ah oui, il dit merde, oui, eux, ils ont pris au premier degré. Et donc, c'est vraiment l'histoire de cette prise de conscience, de ce dévoilement intérieur qui est très, très beau dans le film.
Michel ?
Oui, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Conté, parce que toute son œuvre, c'est vraiment une réflexion sur notre époque de façon extrêmement diverse. Et c'est vrai qu'on pense évidemment à son adaptation, l'emploi du temps, pas d'adaptation, parce que c'est pas adapté directement d'Emmanuel Carrère, c'est sur Jean-Claude Roman. Mais pourtant, j'ai eu un certain malaise en voyant ce film, parce que justement...
À cause du sujet ou à cause du film ?
À cause de la façon dont le film traite ce sujet. C'est-à-dire, je pense que ce personnage reste opaque. Il reste opaque, il n'y a pas de tentative d'élucidation. Il pourrait y avoir une tentative d'élucidation. Dostoïevski a présenté des personnages opaques, mais il nous les a éclairés. Et donc, en sortant de la salle, à la fois, j'étais passionné par le film. C'est un film tout à fait passionnant, et je n'en ai aucune de ses qualités. Mais néanmoins, je pense qu'on ne peut pas traiter ce personnage d'homophobe, de raciste, d'antisémite, de partisan des attentats, etc., comme le personnage de Jean-Claude Roman, qui est relativement simple, d'une certaine façon, par rapport à ce personnage-ci. Et donc, cette sorte...
Mais c'est l'énigme de ce personnage qui est
bien sûr, j'ai bien compris.
Il est une énigme à lui-même, parce qu'il est jeune.
J'ai bien compris
si
que c'est une énigme. Mais peut-être j'attends de l'art qu'il m'éclaire des énigmes.
Il éclaire, je trouve, le film.
Voilà. Et donc, je pense que le film, on reste un petit peu dubitatif. Comment le film peut être pris comment comprendre cet homme, c'est une chose. Alors à part ça, je trouve que c'est remarquable. Je trouve que la fin tout de même est un peu trop explicite et un peu trop sentimentale. Je pense que la fin, je ne dévoile pas du tout.
Non, mais tu as tendance ce soir à raconter un peu trop.
Non, je dis trop explicite et trop sentimentale. Les gens qui verront le film seront d'accord ou non. J'ai trouvé que cette fin était justement pas du tout dans le registre du film.
Arthur Rimbaud, Laurent Cantet, des réactions sur ce film. Une réaction, le micro vient vers vous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai vraiment trouvé ce film très fort. Et puis, finalement, c'est presque une sorte de roman d'apprentissage aussi. Je crois que c'est dans une scène où il y a un Alvaro, elle lui dit « tu apprends ce que c'est la vie » ou quelque chose comme ça. Et finalement, moi, je trouve que le film tourne autour de beaucoup de ça, de quelqu'un qui croyait qu'il y était arrivé et voilà, qui va apprendre ce que c'est la difficulté, apprendre aussi à assumer ses actes. Et là, je trouve que c'est, et puis avec quelle violence la société, notamment la scène du métro qui est fabuleuse, va chercher à se débarrasser, à l'écraser, comme si il le connaissait pas. Non, vraiment, moi, je trouve que c'est un film très beau, très fort à voir absolument.
Merci pour votre intervention à propos d'Arthur Rimbaud. Un peu plus vite, malheureusement, je suis désolé. On ne pourra peut-être pas évoquer tous ces films. Les promesses de Thomas Kritoff avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Et Isabelle Huppert, c'est Clémence, qui est maire d'une ville de Saint-Denis, dont le directeur de cabinet, Yazid, là encore un transfuge social, est interprété par Reda Kateb. Et tout le film raconte comment cette maire, cette édile, qui a été médecin, et dont c'est le dernier mandat, va tenter tous les jours de régler des problèmes de proximité, de logement, de sécurité, et surtout de sauver un quartier insalubre, comment aussi elle va tenter d'obtenir des subventions de l'État, qui fait le sourd, bien sûr, jusqu'au jour où Clémence, qui ne cache pas ses ambitions, est donnée ministrable, d'où la question du titre, hein, va-t-elle sacrifier sa ville et renoncer aux promesses. Film que Thomas Kritoff a coécrit avec Jean-Baptiste Delafont, qui est, je le rappelle, le scénariste de la série politique Baron Noir. Nicolas, quelques mots sur ce film de Thomas Kritoff.
Ben, j'allais dire des acteurs forts. Heureusement qu'on a de très bons acteurs en France, et je trouve que Reda Kateb est vraiment, c'est un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. Il est formidable. Huppert est très bien aussi. Ce qui est étrange, c'est que c'est peut-être le film le plus tenu et le plus carré dont on parle ce soir, et en même temps, c'est celui qui m'enthousiasme le moins. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez juste sur ce que c'est le travail d'une mère, pas au quotidien, mais à un moment un peu crucial comme ça d'élections qui arrivent et je pense que ça raconte quelque chose de très juste. Ça a l'air très bien documenté. C'est très bien fait. Après, je trouve que voilà, pour moi, ça manque un peu de cinéma. C'est très carré, mais ça manque de cinéma. C'est ce que devraient être les grands téléfilms. Je tiens à dire aussi Laurent Poitrono dans les acteurs, qui est formidable. Il y a vraiment beaucoup de très bons acteurs. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus.
Xavier.
Oui, c'est peut-être pas le film le plus mis en scène, en tout cas, de cette soirée. Mais en tout cas, en termes de scénario, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il arrive à articuler le local contre le national, l'engagement contre, effectivement, les petits arrangements, on va dire, que le monde politique connaît. Je trouve que c'est un film qui annonce, qui appelle presque du cynisme, parce que les promesses, on se souvient de la phrase de Jacques Chirac, évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc on croit que le film va être de ce côté-là, et en fait, pas du tout, c'est un film plein d'espoir sur la possibilité, les possibilités de la République encore de remporter des victoires, c'est un film sur les marchands de sommeil, c'est un film qui raconte aussi beaucoup de problèmes de la banlieue avec énormément de justesse, et je trouve le dernier quart d'heure que je ne raconterai pas, mais qui effectivement donne à Reda Kateb un grand moment de cinéma, et ben il a un suspense, il a un enjeu, il a une ampleur en tout cas de récit, et moi je le recommande, même si effectivement c'est pas la mise en scène de la semaine, mais en même temps c'est d'une justesse de scénario et encore une fois de réalisation qui mérite totalement le détour.
D'autant qu'on arrive finalement à croire que Isabelle Huppert peut être maire d'une ville de Saint-Denis, quoi. Déjà ça, c'est une promesse quand même, hein. C'est une promesse. Sophie.
Oui, moi je suis d'accord avec Xavier, c'est très bien écrit, c'est très juste, il parle d'une chose très simple, comment faire payer des gens les charges sans lesquelles on ne pourrait pas réhabiliter le bâtiment, mais en même temps ils veulent pas payer parce que le bâtiment est délabré, et sur cette arche narrative très simple, il greffe toutes les strates de la politique locale, de la politique de terrain, et il montre les promesses, les mensonges, sans doute les petites compromissions, etc. Mais en même temps, il montre que c'est un combat la politique et qu'il y a des gens qui s'y collent et que et sans être angélique, je trouve que c'est un film assez revigorant justement sur la politique locale.
Michel.
Oui, moi je trouve que ce film a une qualité aujourd'hui de populisme galopant et qui consiste à montrer les... Oui, nous sommes dans une époque de populisme galopant, qui ne cesse d'incriminer la classe politique, tous des pourris, tous des vendus. Je trouve ça épouvantable, et on montre qu'il y a des gens en politique qui sont engagés,
etc. Ah oui, donc je trouve c'est un contre-exemple. Non,
c'est un contre-exemple.
Ah oui. Non, mais le début de ta phrase n'était pas clair.
un contre-exemple nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a un déficit de cinéma. C'est-à-dire que le scénario est très bon, les comédiens sont très bons, mais on n'est pas bouleversé formellement.
Les promesses de Thomas Kritov, je ne donne pas malheureusement la parole au public parce qu'on aura à peine le temps d'évoquer Enquête sur un scandale d'État de l'acteur et réalisateur d'Une vie violente, Thierry de Peretti, film en format 1.33 qui, là encore, s'inspire d'une histoire vraie, dite l'affaire François Thierry, du nom du patron de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants qui travaillait, sous Claude Guéant. En octobre 2015, alors que les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis à Paris, un ancien infiltré des stupes, Hubert Antoine, qui est joué par Roche Dizem, contacte un journaliste de Libération, Stéphane Villeneuve, qui est joué par Pio Marmaille. Il lui explique et démontre l'existence d'un trafic d'État dirigé par un grand flic, Jacques Billard, qui est joué par Vincent Lindon, qui se serait, pour aller vite, à coquiner avec le baron du shit dans le seul but de remonter les filières. Donc c'est un film d'enquête, avec beaucoup de scènes d'ailleurs qui sont tournées dans la salle de rédaction de Libération, et en même temps un thriller sur le trafic de drogue. Ça dure 2 heures, et vous avez... 4 minutes pour me dire ce que vous en pensez, Sophie.
Moi, je trouve que c'est un film assez passionnant, d'abord parce que c'est une proposition philosophique. Hein. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'une démocratie qui se respecte peut utiliser les méthodes des voyous qu'elle poursuit? Et ensuite, parce que c'est la médiation du langage est très importante dans ce film, tout passe par les mots. C'est le discours de Lindon au départ, c'est évidemment...
Surtout le Roche Dizem.
Tout ce que raconte l'infiltré, et dont on se demande jusqu'au bout s'il dit la vérité ou pas. C'est ensuite, comme tu l'as dit, la rédaction de Libé. C'est ensuite la cour, enfin les juges espagnols, la cour, enfin c'est toujours c'est un faux film d'action où le mot remplace l'action en fait. Et ça, je trouve que c'est très fort parce que ça permet de montrer que la réalité est multiple, de faire entendre toutes les voix, de montrer que la vérité se dérobe et en même temps de laisser le spectateur se dépatouiller.
J'avoue qu'au bout de 2 heures, je ne sais toujours pas où est la vérité.
Mais on ne le sait pas.
Quelle est la vérité?
C'est toute l'intelligence
du personnage de Roche Dizem.
Mais c'est toute l'intelligence de Peretti, c'est de ne pas trancher avec ça et de nous laisser nous dépatouiller avec ça. Et ça, je trouve que c'est très très fort.
Michel.
Alors moi j'avais bien aimé Les Apaches et Une vie violente. C'est pas que j'aime pas ce film, je trouve qu'effectivement ce film est très ambitieux, le récit est très complexe, il parle de beaucoup de problèmes, etc. Je le trouve incroyablement bavard, pas du tout visuel. D'ailleurs c'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que nous voyons avec Les Promesses, avec ce film aussi, des films à manque total de sens visuel. Et en même temps, c'est sur le petit écran, on voit des visionnaires comme Joel Cohen, comme Scorsese, comme Jane Campion, qui font sur le petit écran des films magnifiques qui sont des timbres-poste, et on voit sur les grands écrans des films où il n'y a aucun pouvoir visuel. C'est le monde à l'envers, vraiment le monde à l'envers.
Nicolas.
Je rejoins assez Michel, c'est-à-dire que je trouve que le projet est passionnant, est-ce que le mystère du film est formidable, mais il y a un vrai problème de mise en scène, c'est-à-dire des longs plans, la caméra est toujours décalée de l'action, long plan séquence où il laisse les comédiens agir comme s'il les laissait se déplacer où ils veulent, et on ne sait pas où est l'attention, où se porte l'attention, où les discours sont très bien, mais parfois j'ai l'impression que les comédiens sont un peu en roue libre, enfin les dialogues, et du coup le film, déjà l'intrigue est floue, joue sur un mystère, et même la mise en scène est floue, et du coup il y a un vrai gap entre l'ambition du film et la mise en scène qu'il met en place, je trouve.
Xavier.
Heureusement que Sophie était là ce soir pour défendre très justement ce film qui ne cherche pas à reconstituer un fait divers, mais en tirer la quintessence pour en faire presque une parabole effectivement sur les rapports très très putrides entre le pouvoir,
parabole labyrinthique, hein.
Et labyrinthique, oui, je sais, j'adore employer le mot,
mais c'est vrai.
Mais je trouve ça d'une cohérence, je trouve que la mise en scène effectivement,
c'est
qui n'est pas sur le réalisme mais qui décale déjà les choses, le choix des séquences, non, pas du tout, le choix des séquences et de la narration qui construit justement cette parabole, cette allégorie, moi je la trouve absolument passionnante, extrêmement pertinente. Il y a des comédiens dans les seconds rôles qui sont sublimes, Marilyn Cantot.
Les comédiens sont très bons, bien sûr.
Mais il y a une vraie mise en scène. Je suis désolé que tu n'avoues pas Michel et que tu opposes bêtement le timbre-poste contre le grand écran. Celui-ci, pardon, il mérite totalement le grand écran et il a une puissance.
Je dis que les grands cinéastes de l'imaginaire font des films pour le petit écran et les cinéastes réalistes où il n'y a pas de sens visuel.
Mais ils le font pour le petit écran, ils vont pas sur les grands écrans. Sur le grand écran, Michel, le débat est stérile.
Non, mais il a raison.
Est-ce que vous voulez qu'on ait un peu de temps pour des conseils? Alors, c'était Enquête sur un scandale d'État. C'est signé Thierry de Peretti. Allez, les conseils, on commence avec Sophie.
Alors, un film d'une rare délicatesse qui s'appelle Petite Solange d'Axel Robert, qui est un film sur une petite adolescente qui est absolument merveilleuse. C'est de la dentelle, c'est avec Philippe Catherine et Léa Drucker, et évidemment le nom de la jeune comédienne m'échappe, je suis désolée. C'est absolument magnifique d'intelligence et de sensibilité, c'est magnifique.
Et Michel.
Alors, jusqu'à la fin du mois à la Cinémathèque française, rétrospective Marco Ferreri, immense cinéaste italien, que Tamassa ressort en DVD, Le lit conjugal, Le mari de la femme à barbe, La petite voiture et Dillinger est mort, le quatrième étant un chef-d'œuvre absolu avec Michel Piccoli. C'est un film magnifique et Ferreri est un esprit totalement indépendant, un des grands du cinéma italien qu'on peut redécouvrir à la Cinémathèque et en DVD.
Alors moi j'ai deux conseils, je suis désolé, hein, mais il y a tellement de films pour l'instant que voilà, j'arrive pas à... C'est le choix de Sophie. Hein. D'abord c'est un documentaire passionnant qui s'appelle H6 de la franco-chinoise Ye Ye qui a filmé pendant 4 mois des malades et leurs familles de l'hôpital numéro 6 de Shanghai, qui est un truc absolument monstrueux, en taille je veux dire, hein, et qui est une radiographie comme je n'en ai jamais vu de la Chine actuelle, formidable. Donc H6, et puis Vous ne désirez que moi, de Claire Simon.
Très beau film.
Là, je crois que Sophie est de mon avis, de Claire Simon, qui est l'adaptation de l'entretien qu'avait accordé en 82 Yann Andrea à la journaliste Michèle Manceau, incarnée ici par Emmanuel De Vos, pour lui raconter combien à la fois il aimait Marguerite Duras à la folie et combien elle le tyrannisait à la folie. Et dans le Rhône de Yann Andrea, Swann Harlow est époustouflant.
Et il est formidable.
Alors encore des plans séquences, on se demande même comment il a réussi à l'être. Voilà, donc Vous ne désirez que moi, c'est Claire Simon. Le conseil de Xavier.
Eh bien moi je vais aller dans les reprises, Lettre d'une inconnue de Max Ophuls avec Joanne Fontaine après Stephen Zweig.
De qui?
Oui, non, c'est pas grave, on ne cherche pas de toute façon. Visible à la fois sur grand écran et sur timbre poste, et qui est un film qui n'a pas pris une ride, et qui est un film absolument sublime. Et puisque vous avez droit à deux conseils, moi je vous recommande aussi la lecture d'un livre d'entretien avec Ira Zax, qui est un cinéaste américain que moi j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement intéressant, et Jérôme Desté l'a rencontré pour les éditions Aédon. Et voilà, et c'est vraiment le travail de ce metteur en scène new-yorkais, homosexuel, qui raconte sa façon de faire du cinéma, qui continue. Et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement sensible et très complice entre les deux.
Tu rappelles l'éditeur du livre, c'est
Aédon.
Le conseil de Nicolas pour finir.
Moi, c'est la plus belle et terrible et dévastatrice chose que vous verrez cette année au cinéma. Ça s'appelle La Nature. C'est un documentaire essai de Artavas Pelechian. Artavas de Pelechian, qui est un cinéaste de octogénaire aujourd'hui et qui n'avait pas tourné depuis à peu près 30 ans, qui est un émule de l'école Ziga Vertov et de l'école soviétique, et qui fait à la fois de documentaire et de l'essai. Alors, si vous n'avez pas vu les saisons, allez voir les saisons. Il y avait eu l'année dernière à la Fondation Cartier une exposition qui lui était consacrée, et La Nature sort le 23 février, ça dure une heure, je vous en dis pas plus, allez-y, si vous n'aimez pas, écrivez-nous.
C'est moi qui reçois le courrier, écrivez à Nicolas Chalère, à l'Obs.
Non, j'ai le temps. C'est un poème sur la souveraineté de la nature sur l'homme, qui mélange à la fois des images de nature absolument sublimes.
Il n'a rien tourné.
Qu'il a repris, et des images de catastrophes naturelles avec des villes entières dévastées.
Ça dure une heure.
Et c'est vraiment très 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 beau.
Tu l'as vu, Xavier?
Oui.
Voilà. Écoute.
J'ai pour règle de respecter les conseils de mes petits camarades, même ceux de Nicolas Chaleur. C'est dire l'effort.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, France Inter.
www.arte.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Michel Simon, Nicolas Chalère et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance Française, il y avait, et je les remercie, Cédric Chatelus, Sidouane Lynch, Philippe Thibault, à la régie Jean-Yves Masson et à la réalisation Xavier Pistugia. Notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, ça aura lieu le jeudi 17 février à partir de 19h au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au théâtre. Dans une semaine, on parlera de littérature à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.